lights out, and away we go. Rosberg gets away quickly. Ricciardo pulls out alongside Massa. They touch wheels as Ricciardo forces his way in. Hamilton's got the inside line in the turn one. Rosberg will try and stay ahead. It's neck and neck with Mercedes. Already going on there is Sergio Perez and the Force India. Hamilton into the lead. Rosberg's lost another place as Sebastian Vettel comes through the Ferrari.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 qui sera consacrée aux qualifications du Grand Prix de Belgique, mais avant ça aussi à un peu d'actu. Mais je ne suis évidemment pas seul puisque je suis en compagnie de Fab. Bonsoir Fab.
Bonsoir.
En compagnie de Marco. Bonsoir Marco.
Bonsoir à tous.
Et en compagnie de Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Quentin.
Comment allez-vous messieurs?
Très bien. Bonsoir.
Comme un pneu super tendre à Spa, fait chaud.
Si c'est un pneu de Lewis Hamilton, il devrait pas être trop usé.
Ça va. Non, oui, c'est bien, il est resté au frais, il a bien bu, c'est parfait.
Donc juste avant de commencer l'émission, on va d'abord vous remercier de vos votes pour les Pod Radio Podcast Awards. Souvenez-vous, on vous a beaucoup sollicité pour ça, et on vous remercie surtout parce qu'ils nous ont permis de remporter la catégorie sport et de finir deuxième de la sélection finale. Et là, on se dit heureusement que c'était avant l'émission de la semaine dernière qu'il fallait voter, sinon on aurait fini mis beaucoup plus loin.
C'est vrai.
Donc on va pas attendre parce qu'on a déjà perdu 3 heures et beaucoup d'auditeurs. Donc on va tout de suite commencer comme prévu avec un rapide tour de l'actu, mais surtout parler du transfert de la saison. Espérons qu'il y en ait d'autres avant la fin de la saison, même si c'est pour 2017. Mais on va bien sûr parler d'Esteban Ocon qui remplace Rio Arriento dans le deuxième baquet de la Manor. Il a choisi le numéro 31 comme numéro permanent. Arriento, lui, a accepté de rester pilote de réserve pour l'écurie. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais surtout, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est Ocon et Wehrlein, à l'issue de leur confrontation chez Manor, qu'est-ce qu'ils vont devenir après?
Vas-y, Victor.
Déjà, c'est bien que tu parles de confrontation, parce que là, on a vraiment les deux jeunes protégés Mercedes chez Manor. Et ça va être intéressant à voir comment ça va jouer sur le reste de la saison. Que là, c'est vrai que de toutes les écuries, il y a toujours des confrontations, même chez Manor, ça va être... Wehrlein n'est pas dégueulasse, on l'a vu en première partie de saison, il était plutôt même en bonne estime.
C'est un champion DTM aussi, il faut pas... Aussi, même s'il est rookie en F1, on parle pas beaucoup du fait qu'il est champion DTM et...
Et justement, c'est aussi intéressant de voir qu'on a un champion DTM et on a aussi un gars qui a une demi de saison de DTM dans les jambes, mais Ocon, c'est début en DTM, ça s'est pas hyper bien passé non plus. Quoi. C'est...
Oui.
Donc ça va être intéressant pour les comparer en comparaison directe et indirecte sur tous les niveaux.
Après, je pense qu'ils ont quand même deux parcours qui s'annoncent qui devraient être différents parce que Ocon est quand même lié à Renault. Donc ça va être intéressant de voir leur confrontation, mais il va pas y en rester qu'un à la fin. Je pense que les deux ont de l'avenir. Ils sont tous les deux pilotes Mercedes, mais Wehrlein devrait rester chez Manor et puis Ocon peut-être plus se diriger vers Renault. C'est ce qu'on entend quand on écoute Toto Wolff. Mais ouais, ça va être super intéressant. C'est quand même deux jeunes très prometteurs. Et enfin.
Surtout après les propos qui viennent de chez Renault, qui disent que eux ils veulent vraiment un jeune pour débuter une longue carrière chez Renault et gagner avec un jeune que eux auront formé, même si Esteban Ocon est encore un peu plus dans le giron Mercedes et Manor que dans le giron Renault.
Et en soi, débuter chez Manor pour une demi-saison comme ça, c'est toujours mieux que débuter en remplaçant Palmer, par exemple, chez Renault. Il n'y a pas de pression, il nous fait un peu ce qu'a fait Ricciardo il y a certaines années.
Ouais, c'est exactement ça. Avoir le temps d'apprendre, mais après c'est sûr qu'il a quand même un coéquipier qui a une réputation et puis qui est rapide.
Ouais, et puis il connaît pas la voiture. Enfin, c'est compliqué hein, d'arriver comme ça au beau milieu de la saison. Je pense que ça va être difficile de le juger. Enfin, je pense que nous, de l'extérieur, on aura beaucoup de mal à le juger parce qu'on aura tendance déjà à notre aspect franchouillard à un petit peu Et puis surtout, connaissant son parcours et la façon dont il est arrivé à un peu grossir quand ça va bien se passer et un petit peu, je veux dire, trouver une excuse toute faite quand ça va moins bien se passer, une excuse valable hein, d'ailleurs. Mais voilà, je pense que cette demi-saison, ça sera surtout bon en interne, quoi, pour vraiment savoir qui a fait quoi avec les armes qu'il avait, avec la connaissance qu'il avait à ce moment-là. Là, c'est difficile de tirer des conclusions. Je voyais déjà des gens qui se tapaient sur le ventre là après les essais libres 1 quand Ocon était devant Verlaine, mais c'était évident que ça se passerait pas comme ça ce week-end globalement.
Même pour les pilotes qui font juste les essais libres 1, c'est pas rare de les voir devant les pilotes titulaires.
Tout à fait, oui.
Oui.
Tout à fait. Mais c'est bien pour lui parce que il faisait partie de cette génération de la F3, voilà, là, on parle évidemment énormément de Verstappen à raison, mais voilà, Ocon, faut pas oublier que même s'il avait plus de saisons de monoplace dans les jambes que Verstappen, il a quand même été champion de cette catégorie-là, donc il y a quand même une adversité relevée, il y a pas de raison qu'il réussisse pas en Formule 1, il aura sans doute pas la chance d'avoir enfin je lui souhaite, mais il aura sans doute pas la chance d'avoir un début aussi tonitruant que Verstappen, mais déjà avoir un pied en Formule 1 c'est déjà beaucoup, et surtout pour un pilote qui est soutenu et qui ne vient pas comme on va dire pilote payant. Encore une fois, j'ai rien contre les pilotes payants, mais un pilote payant a beaucoup plus de mal à convaincre s'il arrive en bout de fond qu'un pilote qui a déjà des références comme Ocon, comme Verlaine, qui sont quand même d'une certaine façon des pilotes payants, mais qui sont plutôt des pilotes estampillés Mercedes, donc avec des avantages qui sont plutôt liés à la fourniture que à de la monnaie sonnante et trébuchante, quoi.
Mais justement, tu parles de soutenu. Il est à la fois soutenu par Mercedes et il a aussi un pied chez Renault.
C'est vrai, oui, lui, il a beaucoup de possibilités.
Pour le futur, c'est tapis rouge. Enfin, c'est.
Verlaine a beaucoup plus à perdre.
Oui, c'est Verlaine qui a.
D'autant plus que Ocon arrive en milieu de saison, donc s'il se fait battre, ce sera mauvais pour lui, mais en revanche, si c'est le contraire, Ocon, on le pardonnera plus que si c'est Verlaine qui se fait battre, évidemment.
Ouais.
Bah, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé chez Red Bull au Grand Prix d'Espagne, quoi, avec Ricciardo qui avait bien noté. Et qui, là, a un peu tout à perdre face à Verstappen, qui est chéri par le public.
Et dans l'écurie Toro Rosso aussi.
Oui.
C'est tout ce que vous avez à dire sur le cas Ocon?
Bon, après, cocorico, comme d'hab, on est content. Enfin, moi, je suis content de revoir encore en français le plus en Formule 1.
Oui. Pas trop normand, quand même, en Formule 1. Faudrait pas non plus qu'il y ait ils finissent par y avoir une invasion un peu dans tous les milieux, vous savez. Un normand, ça va, mais quand il y en a plusieurs, c'est là que ça va plus.
Une autre actu chez Ferrari cette fois. Le départ de James Allison a été annoncé. Et on attend chez Ferrari une restructuration de l'organigramme un peu à l'image de ce qui se passe, de ce qui est en tout cas en état chez Mercedes et de ce qui s'est passé chez McLaren, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul décisionnaire, mais il y aura plutôt des groupes de travail qui sont là pour le faire. Est-ce que c'est ce qui manque à Ferrari pour gagner? Est-ce que vous voyez ça comme une bonne nouvelle? Ça plus le départ de James Allison qui n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ce qui manque à Ferrari, c'est ce qu'a réussi à faire Mercedes, c'est-à-dire que Mercedes, on les avait beaucoup moqués pour l'empilement de grands talents qu'ils avaient fait dans les années 2011-2012. On disait ah là là, tous ces talents, et puis finalement très peu de résultats, et puis finalement sur le long terme, quand il s'est agi de prendre le tournant du V6 turbo hybride, et ben voilà, Mercedes a construit la plus intense domination de l'histoire de la Formule 1 aujourd'hui. Hein, c'est sur tous les grands prix qui ont été disputés depuis 2014, on en a perdu 7. Enfin, faut quand même se rendre compte au niveau des pôles, ils en ont perdu combien? 4. 3 ou 4, donc
3, je crois.
Une partie. 3, je pense.
3, donc voilà, faut se rendre compte de l'incroyable machine que c'est devenu. Après, le problème de Ferrari, c'est que c'est pas tout à fait la même pression que quand Mercedes travaillait un petit peu dans l'ombre, entre guillemets, même s'il y avait une attente de résultats, un besoin de résultats. Ferrari a toujours un peu de mal à se satisfaire d'une stabilité quand cette stabilité ne se traduit pas par des victoires, pas immédiates, mais en tout cas des victoires dans un futur proche. Et comme on disait, même si évidemment la trêve apaise un petit peu la pression qu'il y a autour des écuries, bah mine de rien, Ferrari, avant la trêve, c'était quand même, ça partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait des rumeurs toutes plus, pas forcément toujours fondées, mais des rumeurs quand même, et qui sont toujours des choses qui viennent un petit peu polluer une ambiance, notamment autour d'Arriva Bene. Bah Allison, ça a été plus qu'une rumeur puisqu'il est parti. Donc je veux dire, c'est bien de vouloir réorganiser les choses, mais encore une fois, ça, c'est pas parce que tu réorganises maintenant ou que tu réorganises il y a un mois, que ça va porter ses fruits dans 6 mois, dans 1 an. C'est tout un travail qu'il va falloir faire. Mais quand je lis ça, moi je suis presque étonné de me dire, ah bon, bah eux, ils étaient encore à, ça dépendait d'une seule personne. Enfin, c'est bizarre comme c'est dit, en fait. Ça fait un petit peu, ah ouais, bon, bah c'est vrai, nous, ça reposait un petit peu sur Allison. Bon, donc là, maintenant qu'il est parti, bon, bah on va faire reposer sur tout le monde. Dire, voilà, le problème de Ferrari est plus profond, je pense, que ça. Une réorganisation, oui, mais il y a fondamentalement quelque chose qui ne marche pas au sein de la Scuderia, et peut-être que c'est ça le problème, mais j'ai le sentiment que c'est surtout la façon dont on aborde les problèmes, moi, mais bon.
On ne revient pas au côté italien de Ferrari. Je crois que ce côté-là avait déjà été abordé quand il s'était restructuré avec l'arrivée d'Arriva Bene et tout ça. Et j'ai cru lire une actualité comme quoi ils voulaient peut-être s'inspirer de l'esprit de McLaren dans leur manière de gérer les choses. Et ouais, pourquoi pas, mais il y a aussi quelque chose qui me fait un peu tiquer chez Ferrari, c'est que j'ai un peu l'impression, là, depuis les changements de direction avec Montezemolo et tout, qu'ils sont toujours en permanence en réorganisation. Et à un moment, t'as un programme précis, quoi, là, j'ai l'impression qu'ils tirent un peu à vue, et t'embauches, tu vires, c'est pas comme ça que ça va marcher. Parce que là, Allison, ça fait combien de temps qu'il était chez Ferrari? Il avait quitté Lotus fin 2013, non?
Ouais, peut-être. Ouais,
ouais, il devait être arrivé pour 2014 en gros, hein, globalement.
Il avait pas eu le temps de travailler sur la voiture de 2014, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, voilà.
Ah, donc deux, c'est pareil. Quoi, de l'influence sur deux voitures, deux saisons. Et il part en milieu de... Ouais, c'est...
Pour Ferrari, rien à rajouter. Enfin, en tout cas sur cette actu-là, sur Ferrari, on aura peut-être des choses à dire après.
Non.
Ça confirme peut-être un peu les tensions qu'on sent de Vettel, quoi. Enfin, Vettel, c'est pas le Vettel de la saison dernière. On le sent, moi personnellement.
C'est vrai qu'il a l'air tendu.
Je le vois sur la piste.
Ouais.
C'est un Vettel crispé. Et est-ce que c'est pas pour tout ce qui se passe en fond, peut-être.
Ouais, il commence à comprendre Alonso et...
Alonso qui se frotte les mains, j'imagine.
C'est lui qui va aller chez McLaren l'année prochaine, putain.
Ouais. Ouais. Donc on va passer au week-end qui nous intéresse vraiment. Le week-end du Grand Prix de Belgique. Avec 44 tours prévus du circuit de Spa-Francorchamps. Des tours de 7,004 km. Pour une distance totale d'un peu plus de 308 km. Le commissaire pilote de la FIA ce week-end est Danny Sullivan, un pilote américain.
Vainqueur de l'Indy 500.
Exactement, vainqueur de l'Indy 500 en 85, et il a fait de la F1 sur la saison de 1983, et son meilleur résultat, c'est une 5e place à Monaco.
Bravo. Bravo, Danny.
Ah, je croyais que tu disais bravo à moi pour avoir cité ça.
Bravo, mais bravo aussi, Quentin.
Non, mais citer une stat comme ça, c'est pas facile.
Ah,
hein.
Ah ouais, non, c'est beau. Sans trembler du menton, c'est joli.
Les zones DRS de ce week-end, il y en a deux. La première dans la ligne droite de départ, et la deuxième dans la ligne droite de Kemmel, entre le Rédillon et le virage des Combes. Les pneus choisis par Pirelli sont les médiums blancs, les tendres jaunes et les super tendres rouges. Il y aura bien sûr les intermédiaires et les pluies, enfin bien sûr. Peut-être.
Peut-être.
Et ouais. Avant de revenir sur les essais libres,
On va avoir un petit happening, mais je vous rassure, ce ne sera pas long. Au lieu de 3 heures, on va passer à 3 minutes. Même si c'est Jackie, ce sera que 3 minutes, je vous prie, parce que c'est enregistré de toute façon, donc ça ne fera pas plus longtemps que 3 minutes. Et donc c'est Jackie qui était à Spa, enfin qui est toujours d'ailleurs à Spa ce week-end, et qui nous raconte sa première expérience. C'est la première fois qu'il était sur un Grand Prix de Formule 1, donc il nous raconte son début d'expérience et peut-être qu'il y aura la suite lundi dans l'émission.
Donc en direct de Spa, où je suis actuellement dans le dernier virage, avec pas mal d'Hollandais, beaucoup de chaleur, on cherche l'ombre, c'est un des rares endroits où il y a de l'ombre ici à Spa, tout le reste c'est compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai vu ce week-end? J'ai vu beaucoup de choses, première fois que j'allais sur un Grand Prix, donc j'ai entendu pour la première fois des moteurs de F1 en direct. Donc il y a effectivement un bruit moindre que sur les V10 et les V8, même si je les avais jamais entendus. Mais ça reste quand même des moteurs qui ont une violence, parce que certes les GP2 font un peu plus de bruit, mais il n'y a pas autant l'effet catapulte qu'on peut voir sur une F1. Donc moi j'aime bien le bruit de moteur de la Ferrari. Effectivement, le moteur de la McLaren est très très bizarre. On dirait même que même quand il est à fond, au tout départ, il y a comme une sorte de bruit malgré tout, de raté. C'est très curieux. Sinon, effectivement, une Formule 1, on l'a vu sur plusieurs virages. Donc j'ai vu à Bruxelles, j'ai vu Poumon, et là au dernier virage à l'arrêt de bus, on constate plusieurs choses. Ça accélère très très fort. Il y a une sorte d'effet catapulte. Est-ce l'hybridation? Je sais pas, parce que c'est quelque chose que j'avais constaté aussi au Mans. Il y a aussi un passage d'Empouron qui est incroyable. C'est-à-dire que il y a certains pilotes qui ne descendent même pas une vitesse. Ils rentrent juste en levant le pied de l'accélérateur. C'est vraiment impressionnant. Sinon, dernière chose, ce qui est compliqué en fait ici, mais je pense que c'est valable dans tous les Grands Prix, Dino et Gus Gus pourront dire de même le week-end prochain, c'est d'avoir des informations sur la piste. C'est très très compliqué d'avoir de l'information. Il y a des écrans géants, mais on n'a pas de son, on en parle assez peu. Il y a la radio qui est écrite sur les dépliants. Il y a une radio, elle fonctionne pas. Donc c'est vraiment très compliqué d'avoir de l'information. Au prix que ça coûte, les gens normaux, on va dire, ceux qui n'ont pas des places en tribune. Faut vraiment être très motivé pour venir faire un Grand Prix, parce que on est assez mal installé, tout est assez cher, ce qui est sur Pirate Air Instant, c'est d'être dans l'ambiance de tout ça. Là, il y a plein de Néerlandais, donc c'est vrai que dès que Verstappen passe, c'est vachement sympa. Mais à tel point qu'on espère qu'il y ait une victoire de Max demain, parce que ça... Enfin, mes filles préféraient que ce soit Rosberg qui gagne, hein, je vous cache pas. Mais bon, voilà, c'est quand même un moment... Moi, c'était mon premier Grand Prix de F1. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous souhaite une bonne émission de qualification.
Voilà, donc je vous rassure, les applaudissements n'étaient pas pour Jackie, c'est la magie du montage qui a fait ce petit...
D'accord, ce que je me disais, il devait être sur son rocher, acclamé par la foule.
Ils auraient crié Jackie, forcément. C'était...
Oui.
La question, c'est est-ce qu'il a croisé Laurent Dupin? Qui allait se promener pendant les EL3 à la chicane.
Ouais.
Pas être rigolo. Ah, super sympa.
Oui, c'est vrai, très sympa.
Je confirme.
Après, on nous conseille sur le chat, il y a un anon qui nous dit fallait prendre les jumelles et la chaise pliante, Jackie, c'est la base. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que... Enfin,
il a raison.
Il les a peut-être pris, mais c'est, alors, l'expérience fait qu'on s'habitue au non-confort de...
Alors, pour la chaise pliante... Vas-y, Marco. Ouais.
Surtout à Spa. Hein. Le confort dans la zone bronze, il doit être. C'est très spartiate. Hein.
Oui.
Il faut bien s'équiper.
En fait, le problème de la chaise pliante à Spa, c'est que... faut que tu trouves un endroit... tu te mets tôt et que tu bouges plus. Mais quand je dis bouge plus, c'est bouge plus. Genre, on va passer pour la course, je suis arrivé à 8h à la chicane, et j'ai pas bougé. Mais...
Oui, j'ai vu...
Mais t'étais bien placé.
Ouais. J'ai vu des Anglais uriner dans leur bière vide, donc il faut vraiment pas bouger.
Marco, t'as été sur le Grand Prix du Canada cette année, il me semble.
Oui.
Tu peux confirmer ce qu'il dit que on... enfin, toi t'étais en tribune il me semble, mais tu peux confirmer ou pas d'ailleurs si qu'on a assez mal informé sur le circuit.
Ça dépend des grands prix. Au Canada, il y a une radio qui fonctionne très bien, donc il suffit de télécharger une application et puis d'écouter la radio officielle. Après oui, ça dépend vraiment des courses. Je suis allé sur d'autres grands prix, par exemple en Allemagne, c'est sûr si tu comprends pas l'allemand, bah
oui.
C'est compliqué, mais effectivement l'information pourrait être mieux. Les écrans géants sont vraiment que pour les tribunes, on va dire, pas les zones où on peut s'asseoir, enfin je sais pas comment expliquer ça, pas l'enceinte générale, mais vraiment les tribunes, il faut payer un peu plus cher, et des jumelles sont bien utiles pour comprendre ce qui se passe. Mais souvent, moi je regarde une deuxième fois la course à la télé parce que j'ai pas tout compris, on loupe forcément des choses.
Ouais.
Donc on va passer aux essais libres. Les essais libres qui ont été marqués par la présence de pneus prototypes plus résistants qui pourraient faire leur entrée dans la compétition au Grand Prix de Malaisie cette année. Donc on attend encore les retours de Pirelli sur cette expérience des pneus. Et pour tout le week-end, il y aura des pressions minimum qui font quelques mécontents.
Oui, concernant les pneus prototypes, comme c'est un changement en cours de saison, il faudra que ça soit ratifié, enfin accepté par l'ensemble des équipes, ce qui est pas forcément gagné, même si ils avaient l'air de dire que les retours étaient très positifs, ou alors toujours l'option d'aller voir la FIA et de leur dire que c'est un motif de sécurité, ce qui a priori correspond, puisqu'ils nous disent justement que c'est pour renforcer le pneu face au choc, donc a priori c'est un motif de sécurité,
Oui, c'est 2013 la dernière fois.
Oui.
Donc c'est pas impossible que ça se fasse pour des motifs de sécurité.
Non, un petit 49.3, c'est bon. Hein.
Sinon, au niveau des tops et des flops, Victor, tu as souligné le redémarrage de la Renault de Jolyon Palmer en top, en soulignant que c'est idiot, mais voir une F1 repartir d'elle-même après en avoir vu tellement scotché sur la piste, moteur calé, c'est assez magique. Donc apparemment, moi j'ai pas vu l'action, mais apparemment tu précises qu'il a pu redémarrer grâce au MGUK et qu'il a pu ramener sa Renault au stand.
C'est vrai que c'est, tu te dis au départ, quand t'es ingénieur qui donne les informations, tu te dis, non, il repartira jamais, enfin, pourquoi tu dis ça, pourquoi est-ce qu'il reste dans la voiture, et au final, tu le vois partir, quelque chose de nouveau en Formule 1, et j'espère qu'on verra ça, plus souvent. Je sais que dans les débauches de règlements, je crois, 2014, etc., parce qu'il y a une époque où je disais les règlements, il fallait que la Formule 1, je crois, soit en mesure de redémarrer par elle-même. On y avance, je crois que ça avait été retiré du règlement, mais là on avance un peu plus vers ça, et c'est appréciable, par exemple pour un pilote qui cale, de pouvoir redémarrer.
Tu as aussi souligné la forme affichée par les Force India, 4e et 8e en essai libre 1, 3e et 5e en essai libre 2, voilà.
J'ai pas parlé du Hülkenberg encore, mais...
Non, c'est vrai, mais c'était bien... C'est caché, mais c'est pas mal. J'ai mis assez Manor dans les tops, toujours délicat de dire où ils sont vraiment, mais ils semblent un peu plus haut sur la grille que... Ça s'est confirmé, mais ils semblent aller un peu plus haut sur la grille que leur place habituelle. Et dans les flops, tu as souligné, Victor, la patience de Sébastien Vettel, ou plutôt la non-patience, l'impatience. C'est un pilote qu'on entend souvent râler en course, notamment à cause des drapeaux bleus. Force est de constater qu'il était en forme durant les deux premières séances d'essai, agitant la main car se sentant gêné par d'autres pilotes sur la piste ou même lors d'essais de départ.
Ouais.
C'est bien que tu sois 4 fois champion du monde et pilote d'un top team, cela ne t'empêche pas d'avoir un peu de patience, surtout lors des séances du vendredi. Je tiens néanmoins à mettre un peu d'eau dans mon vin, je te cite Victor, concernant l'incident avec Magnussen en essai libre 3.
Ah, tu parles à Sébastien, toi, t'es comme ça.
Oui, ouais. Oui. Tu sais, des fois...
T'es intime.
Tu diras le SAV...
Non, mais... Ouais. Vas-y. Enfin, je souscris à ce que tu dis. Après, pour les gènes, bon, les gènes, tous les pilotes sont plus ou moins sanguins quand il s'agit de réagir à une gêne. Ça dépend de l'importance, ça dépend de la vitesse à laquelle tu arrives sur la personne qui te gêne, évidemment. On reparlera de Gutiérrez, je pense. Mais sinon, je pense que moi, ce qui m'a surtout plus gêné, c'était pas ça, c'était quand il a fait signe à une manœuvre d'avancer, enfin de se bouger au moment d'un essai de départ. Là, je me suis dit, mais bon.
J'en ai parlé aussi. Justement.
Pourquoi, quoi? C'est là, par contre, j'ai pas compris. Et c'est vrai que alors c'est une impression comme ça. Je le trouve un petit peu agacé. Alors après, il peut être agacé pour mille raisons, pas forcément liées à ce qui se passe chez Ferrari ou voilà. Mais j'ai trouvé un peu agacé sur. Alors il était peut-être aussi agacé parce qu'il y a eu beaucoup de gêne pendant les autres, pendant ces tours d'essais libres. Hein, mais ça m'a particulièrement marqué. C'est assez inhabituel. Je trouve pas très élégant non plus. Après, bon, dans le cockpit d'une F1, bon, surtout à ces chaleurs-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui montent au cerveau et qui sont pas toujours réfléchies.
Surtout que chez Manor, enfin, c'est deux jeunes pilotes, quoi. Bon, tu vois la couleur de la voiture, c'est ça, quoi. C'est le côté un peu expérimenté envers les autres qui me gênait un peu dans le comportement de Vettel. Après, voilà, hein, on a tous des périodes de haut, de bas. Écoute, Sébastien, lis mon commentaire.
J'ai souligné en top Toro Rosso. Désormais plus proche de la Q1 que de la Q3, l'écurie italienne paye son moteur 2015 et les faibles écarts dans le peloton. On mise donc évidemment sur l'aéro de cette voiture, mais ça ne semble pas suffisant ce week-end. Et on peut s'attendre à ce que ce soit la même chose en Italie. Et j'ai vu qu'un pilote, il me semble que c'est Sainz, a déclaré que l'aéro, c'était le moteur, c'était peut-être un problème, mais c'était que la moitié des problèmes sur la voiture.
Oui, il était. J'ai eu la chance d'écouter le son en fait de son intervention et c'est vrai qu'il avait l'air d'être pas perdu, mais en tout cas il avait l'air de pas vraiment comprendre. Toro Rosso s'attendait évidemment à souffrir, il s'attendait pas à être en Q3 non plus, mais voilà, il se disait allez, on sera à 3-4 dixièmes de la Q3 et finalement ils sont à une seconde quasiment. Ça avait l'air de alors que Kvyat non, parce que Kvyat visiblement on s'en fout, mais Sainz en revanche lui avait l'air voilà vraiment étonné, et je pense que c'est l'étonnement un peu de toute l'équipe, même si encore une fois on est sur un circuit, c'est peut-être leur pire circuit, le pire circuit pour eux. Hein. Bon, il y a Monza qui arrive, donc là, ils vont passer une bonne semaine. Mais effectivement...
Ça se voit dans les vitesses de pointe. Je crois qu'ils sont à 333, ouais, quand le maximum, c'est à 342, un truc comme ça.
Oui,
c'est moins
sûr.
Que les écarts qu'on avait pu voir en 2014, mais ça reste des beaux écarts.
Tout à fait.
Sinon... En fait, il devait y avoir un autre top que j'ai complètement oublié de mettre. C'était les essais du halo. Donc, on va en parler maintenant. Le halo, donc, il est monté sur la voiture de Ricciardo, de Rosberg, de Sainz et de mémoire, quatrième.
Hülkenberg.
Hülkenberg.
Toujours.
Donc voilà.
C'est Rosberg, bien que tu t'en souviennes, Victor. Avec.
En plus, je l'ai sous les yeux et j'en réfléchis quand même.
Ça, bah oui. Incroyable.
Non, mais Hülkenberg, il fait des trucs, mais des fois, on oublie.
Non mais c'est bien qu'il l'ait testé, lui qui était pas, lui qui est vraiment pas un partisan de ça, c'est bien.
Et Rosberg a fait quelques tours de plus que les autres avec, et il a même signé le meilleur temps des essais libres 1 avec le halo sur la voiture au moment de ce chrono. Donc je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire parce que début du week-end c'était un peu compliqué pour moi. Donc je sais pas trop s'il y a des réactions des pilotes. Je sais qu'il n'y a pas de problème de visibilité dans le raidillon. C'est déjà ça.
Ouais, ouais.
Je pense que Rosberg était plutôt positif. Hein.
Ouais. Oui.
C'est le plus positif.
Oui, Rosberg a dit que ça l'avait, il avait même pas remarqué qu'il y avait un truc sur sa voiture quand il a fait son chrono.
Ouais, disons que oui, Rosberg a été très positif. S'il avait des reproches à faire, il les a gardés pour lui. Ricciardo a été un peu plus mesuré, disant qu'il y avait encore du travail à faire, mais tout en restant dans la même veine, c'est-à-dire que ça gênait pas, c'était... voilà.
Ricciardo a aussi testé l'aéroscreen.
Voilà, tout à fait.
Je sais pas s'il a fait de comparaison avec, mais...
Bah, de toute façon, ils ont eu un petit questionnaire de la part de la FIA auquel il va falloir qu'ils répondent, ou qu'ils ont déjà répondu. D'accord. En tout cas. Et voilà, pour avoir les retours. Et Hülkenberg, ça a été un petit, celui qui a été le plus mesuré, mais pas forcément non plus en négatif. Il a plutôt dit voilà qu'il faudrait sans doute faire plus de tours pour s'habituer, mais que fondamentalement, voilà, c'était étrange de plus avoir une vision libre de ce qui se passait au-dessus de soi, autour de soi, mais que en tout cas il est voilà, il y avait pas grand chose à dire, c'était pas très gênant, voilà.
Bah, c'est ce que je trouve intéressant dans les essais de Rosberg, c'est que justement il est plus que le tour d'installation, il a vraiment attaqué, il a vraiment fait des trucs sur un circuit où justement avec le Raidillon c'était le circuit pour tester ce dispositif. Donc oui, c'est bien d'avoir déjà autant de pilotes dans une même séance qui les testent, partager les avis et partager les opinions, et d'avoir aussi des tours compétitifs.
D'ailleurs, est-ce que vous savez comment ça se fait, si c'est les pilotes qui font la demande ou si c'est la FIA qui impose, ou il y a un tirage au sort, j'en sais rien.
Je pense que chaque équipe doit pouvoir en faire la demande, parce que je sais que par exemple McLaren a prévu de le tester plus tard. Donc je crois que ce sont les équipes qui décident. En gros, la FIA veut que toutes les équipes puissent l'essayer avant la fin de l'année, dans ses dispositions actuelles, dans son dispositif actuel, et que voilà, chaque équipe fait un peu comme elle veut en fonction. Peut-être qu'elle doit la FIA plus insister, notamment c'est pour ce week-end à Spa, ce qui expliquerait qu'on ait eu quatre voitures qui l'avaient, mais ouais, je crois que c'est les équipes qui demandent. Quand elles veulent. Je pense que le but, ça sera au final d'essayer d'avoir tous les pilotes qui l'essaient, mais ça, après, je pense que c'est moins ce qui est recherché. Mais en tout cas, toutes les équipes vont le tester, ça c'est sûr.
Est-ce que vous avez un autre fait marquant de ces essais libres sur lequel vous voulez revenir ?
Il
va passer grand chose en même temps.
Non, Gutiérrez, quoi, qui
je sais pas, oui, j'allais en parler.
Qui décide de rester, voilà, au plein milieu de la piste à la sortie du Raidillon. Bon, c'est sympathique quand il n'y a pas de voiture qui arrive derrière, ça va.
Oui.
Là, pas de bol.
Apparemment, il a expliqué un peu et il parle de soucis de communication avec son équipe.
Oui, mais il a beaucoup de soucis de communication, je remarque,
oui,
Gutiérrez, depuis quelques week-ends, donc je pense qu'il va falloir se pencher sur la question de la radio, du côté
c'est
de
vrai,
la...
C'est un problème récurrent.
Du pilote, ouais, directement.
Il n'y a pas que la radio, je veux dire, quand tu sors de l'eau rouge au ralenti, tu regardes au moins dans tes rétro.
Oui, non, non,
tu
mais je... C'est blague à part, je pense que, voilà, encore une fois, chez As, on a tendance un petit peu à le dédouaner, voilà, on a tendance un petit peu à le dédouaner pour tout, donc moi je suis pas de ceux qui le considèrent responsable par exemple pour l'accident d'Alonso au Grand Prix d'Australie. J'aurais encore une fois tendance à mettre la faute sur Alonso, mais là quand même depuis 2-3 Grands Prix ça gêne sur Hamilton, ça gêne sur Ricciardo, ça gêne, enfin là c'est même plus qu'une gêne, là c'est très grave. Bon, c'est quand même un peu le même schéma qui se répète, donc faut faire attention. Ça devrait rentrer, quoi. Il devrait pas y avoir besoin forcément de radio. Alors certes, la radio te permet de connaître, de savoir quand un adversaire arrive et quand gérer son tour, mais le bon sens quand même t'amènerait à penser que à la sortie du Raidillon, c'est pas forcément le bon endroit pour faire un ralentissement majeur. Tu peux commencer à ralentir à partir de là, et après t'as la ligne droite de Kemmel pour te garer, mais là quand même, bon, c'est pas sérieux, quoi, ça... Certes, l'équipe a un rôle à jouer, mais voilà, faut faire attention, quoi, aux pilotes.
Tu penses que sur le halo, on peut mettre justement des rétroviseurs supplémentaires pour un
pilote ? Oui, et des néons aussi, on peut mettre, donc je pense que ça va être sympa. Ça va être funky, la F1.
Un peu de disco, tu vois, là-dessus.
Ouais, un petit sapin. Pardon.
Et donc, on va passer aux qualifications. Les éliminés de la Q1 sont Fernando Alonso, qui n'a pas fait de tour, mais qui sera autorisé à prendre la piste puisque il a fallu une autorisation puisqu'il n'a pas fait de temps, donc il ne pouvait pas être dans les 107%. Lewis Hamilton, qui est dans les 107%, mais qui s'est contenté d'un chrono quasiment au ralenti en 21e position, sous réserve de changement d'ici demain. 20e position, Marcus Ericsson, qui a 10 places de pénalité pour un changement de moteur. Daniil Viat en 19e position. Esteban Gutiérrez sur la 18e place, puisque pour le fait qu'on vient d'évoquer, il a reçu 5 places de pénalité sur la grille. Et si je me souviens bien, 3 points sur son permis. Donc il est à 7 points en ce moment.
Ah, il a pris 3 points, j'avais pas vu ça.
Oui. Et Esteban Ocon, pardon, j'ai oublié. Un pilote dans la Q1. Enfin, plutôt dans les 6 premiers éliminés. Esteban Ocon, 17e sur la grille. À noter que Felipe Nasser gagne une place. Lui n'est pas passé en Q2 non plus, mais il gagne une place grâce à Gutiérrez. Mais il s'est qualifié 17e, mais il partira 16e sur la grille. Et donc, c'est le dernier des éliminés en Q1.
Oui, bah, Alonso qui a pu faire le raidillon quand même, donc ça c'est bien.
Oui, c'est le principal, à Spa c'est...
Ouais, voilà, je pense que quand t'as fait ça, tu peux t'arrêter. C'est ce que s'est dit le moteur Honda, je pense. Il s'est dit, bon là c'est bon, moi ma journée est faite.
Je peux mourir tranquille.
Je peux mourir tranquille. Tout à fait.
J'espère qu'il n'y avait pas de parasite.
Oui. Non, mais bon. Ouais. Ah, sinon, après Hamilton.
En plus, les problèmes de micro parasité ce week-end, il y en a eu.
C'est vrai.
Et là, c'est un bon gros week-end de merde hein, pour.
Oui.
Du côté du virage Alonso. Quoi. Ça fait longtemps que. Ouais,
McLaren, il n'a pas participé aux essais libres 1.
Ouais. Et bah, du coup, oui, il n'a même pas le moteur évolué, quoi. Ce qu'a Button.
Mais il l'a pas, là, du coup, avec tous ces changements.
Plus d'un moment. Je crois qu'ils ont remis un moteur. Mais je sais plus. J'ai un peu de mal avec les pénalités.
Et évoluer, il a fait qu'un tour, donc il faut peut-être mieux reprendre l'ancien à ce moment-là.
Ah, mais tu sais, de toute façon, pour ils en sont.
Mais on voit la différence de budget entre les équipes, quand même, parce que Ericsson qui change un moteur. Il prend 10 places, il aurait pu changer 3 fois de moteur et puis toutes ses pièces pour être tranquille pour la fin de saison. Là, non, c'est juste le moteur et c'est tout. Hein.
Oui.
Mais moi, j'étais,
c'est sûr.
J'étais persuadé qu'on pouvait changer qu'une pièce par week-end. Enfin, pas, comment dire, un élément distinct par week-end. Et je pensais pas qu'on pouvait accumuler comme ça 3 moteurs dans le même week-end. J'étais assez surpris de ça, en fait.
Mais c'est vrai que 3 moteurs, quand même, on en revient à la bonne époque des années 2000, où on avait un moteur pour le rendu, un moteur pour le samedi, un moteur pour le dimanche. C'est quand même assez
ironique. Mais à ce moment-là, les grosses équipes, ils ont qu'à se dire, allez, une fois dans l'année, on part dernier, puis on a 2 fois plus de moteurs que les autres. Et,
Le problème, c'est qu'il faut que ce soit assez tard dans l'année pour que les évolutions du moteur soient arrivées.
Oui, ouais. Déjà, il y a ça.
Et que assez de moteurs soient fabriqués.
Et ça a un coût. Bon là, évidemment, on parle évidemment en filigrane d'Hamilton, mais et donc de Mercedes qui profite à la fois de la pénalité inéluctable et puis surtout tout est lié de leur évolution moteur pour faire le plein de pour Hamilton. Alors certes, on peut se dire que c'est un détournement de règlement, mais dans la mesure où le règlement est fait de telle manière que c'est possible, donc c'est pas tellement un détournement de règlement. Évidemment, on est tous d'accord pour dire que c'est pas dans l'esprit dans lequel le règlement a été fait. Mais en même temps, si c'est pas dans l'esprit dans lequel le règlement a été fait, les moteurs ne sont pas gratuits. C'est pas des moteurs qui tombent du ciel. C'est des moteurs que Mercedes doit produire. C'est des moteurs qui coûtent de l'argent à Mercedes. Moi, j'ai absolument aucun problème avec le fait qu'une écurie mette 3 moteurs dans une... J'ai déjà dit, moi, de toute façon, quand on mettait à l'époque des pénalités pour changement de moteur qui se répercutaient soit sur la course du week-end, soit sur le Grand Prix suivant, moi, je trouvais ça complètement idiot. Vous voyez que je trouvais que ça avait aucun sens, ça rendait totalement... je sais pas, ça grevait, ça gâchait tout, et je trouvais pas l'intérêt. Je comprends Bien que quand on en arrive à des extrémités comme ce week-end, on peut se dire « Ah là là, c'est quand même pas... le règlement est quand même mal fichu. » Peut-être, mais d'une certaine manière, voilà, encore une fois, ces moteurs sont pas gratuits, c'est Mercedes qui les paye, c'est eux qui prennent le risque de payer autant d'argent sur ces moteurs-là. Voilà, moi je peux pas leur reprocher à eux, et surtout que, de toute façon, ils sont pénalisés. Et même si on considère qu'ils sont pénalisés que sur ce Grand Prix, mais c'est quand même déjà un Grand Prix dans lequel ils sont pénalisés. Combien de Mercedes ont abandonné ce week-end? Enfin, combien de fois Mercedes a abandonné cette année? Ils ont abandonné une fois. Les deux, si je ne m'abuse. Donc on peut quand même pas dire que la voiture est pas fiable. Donc partir dernier, c'est un problème. Donc et sur 21 courses, on peut dire sur 21 courses c'est peu, mais ça reste quand même un problème de partir dernier. Donc
ouais, mais c'est difficile. Quand même, ça fait poser quand même pas mal de questions à ce moment-là. Bon, il faut que la fin de saison approche pour qu'ils aient atteint déjà leur quota de moteurs. Mais tu fais une mauvaise qualif, on n'en sait rien. Enfin, Raikkonen s'est déjà arrivé de louper la Q1. Et ben à ce moment-là, allez hop, je prends 3 moteurs et puis je suis tranquille jusqu'à la fin de l'année. Je trouve ça injuste pour parce que c'est de l'argent que tout le monde n'a pas. On voit avec la Sauber. Je sais pas, il y a un problème.
C'est vrai que madame ne se permettrait pas de passer 3 moteurs dans le même game.
Oui.
C'est un peu réservé aux constructeurs.
Oui, même mais...
Ok, oui. Ils mettent l'argent, c'est bien, mais c'est parce qu'ils l'ont. Mais c'est comme... On essaye d'avoir... on parle de budget capé et tout ça pour qu'il y ait un équilibre entre les équipes. Et ça, c'est carrément le contraire qu'ils ont créé. Quoi.
Oui, moi, j'ai pas vu cet aspect-là. Ouais.
Oui, non, mais je comprends le truc.
Si on veut arrêter ça, il faut calquer le règlement moteur sur celui des boîtes, faire X grands prix consécutifs et pénaliser s'il y a un changement avant terme. Est-ce que, selon vous, ça changerait
Oui, ça changerait quelque chose. Mais...
Ouais, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même... Enfin, le règlement est quand même tentaculaire actuellement, c'est normal, il l'est de plus en plus. Enfin... Moi, pour moi, c'est encore un petit précaré pour les motoristes de pouvoir quand même gérer leur parc de moteurs. Alors, certes, avec la possibilité, effectivement, d'agir de cette manière comme l'a fait Mercedes, Moi, j'ai pas envie d'un règlement moteur trop sévère. Déjà, le règlement moteur est quand même, c'est 5 moteurs pour l'année pour faire 21 courses. On a déjà quand même beaucoup travaillé sur la fiabilisation. Alors là, pourquoi Mercedes fait ça? Bah évidemment parce que même en changeant qu'un seul moteur, Hamilton était toujours un peu limite sur son quota de moteur. Donc ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont rajouté des pièces. Donc là, il va être serein pour la fin de saison. Mais on est dans une époque de fiabilisation, c'est quand même déjà un effort qu'on a demandé aux motoristes. Certes, les motoristes n'étaient pas obligés de le faire, ils n'étaient pas obligés de venir en Formule 1 avec ce règlement-là, mais ils l'ont déjà fait. Alors si en plus on rajoute des contraintes, moi, je suis pas pour, surtout que la mécanique du règlement de l'année prochaine, ça sera d'enlever les jetons de développement. Donc déjà, on va libéraliser un petit peu la question du développement, tout en gardant cette règle des 5 moteurs par saison, ce qui donc obligera quand même les motoristes à travailler dans une certaine échelle de temps si on veut pouvoir faire bénéficier aux moteurs des évolutions. Moi, je sais pas, ça me gênerait un petit peu dans cette ère où on a déjà demandé beaucoup aux motoristes. D'ailleurs, les motoristes se sont plus ou moins imposés à eux-mêmes des efforts. Je sais pas, ça me semblerait de trop, ça me semblerait rajouté, je sais pas. Mais effectivement, cette situation pose question, ça je suis bien d'accord. Je sais
pas. Parce qu'un moteur, tu le changes, t'en prends un nouveau parce que tu n'as plus de moteur qui sont capables de faire la course. Là ce serait logique, ouais, t'as plus de moteur, t'en prends un nouveau. Mais de les accumuler puis de les garder en stock, je trouve il y a l'esprit et la règle. OK, c'est dans la règle, c'est OK, mais l'esprit est vraiment pas là.
Oui, mais bon, après c'est quelque chose qu'ils font déjà avec un peu les pièces aérodynamiques, tu vois, genre enfin t'en avais plus adapté que d'autres, genre tu vois Mercedes c'est quand même incurvé pour Spa, tu peux pas se payer maintenant. C'est moi, c'est personnellement, cette règle est là et ça me choque pas. Cette histoire de ça reste injuste, Mais après, c'est une vision personnelle, hein, mais la manière dont on construit la Formule 1 aujourd'hui, ça me choque. Quoi.
Pour moi, il n'y a pas d'hypocrisie, et ils font ça tranquillement, ils ne cachent rien et ils ont raison de faire ce qu'ils font. Mais ouais. Moi, n'empêche, ça me gêne un peu.
Parce que après, ouais, c'est vrai que, faut aussi voir l'autre côté, par exemple. Disons que Mercedes aurait juste changé un moteur, et que Hamilton se trouve à court à peu près de moteur en fin de saison. Pour des problèmes de fiabilité de début de saison, un peu dû à de la malchance, ça aurait été quand même moche, je trouve, d'avoir un titre décidé là-dessus. Autant tout concentrer d'un coup, et après, on joue le titre. Que c'est pas Rosberg, justement, qui va pas en pâtir avec son statut.
Bah si, justement, Rosberg, il avait besoin de ça pour avoir une chance.
Non, justement, parce que ça n'a pas un effet pervers. C'est-à-dire, où on est Rosberg avec ses moteurs aujourd'hui, et quel sera le bilan en fin de saison, parce qu'Hamilton n'aura pas un avantage là-dessus, quoi. Mais bon,
l'avenir nous le dira.
Rendez-vous en fin de saison.
Donc j'ai pas précisé le nombre de pénalités, mais c'est assez pour que les deux pilotes se retrouvent, Hamilton et Alonso se retrouvent côte à côte sur la grille. S'ils décident pas de partir de la voie des stands, en tout cas.
C'est 60 pour Alonso.
70, et... il me semble.
60. 70, tout augmente.
Il est passé à 70
et, 55 pour Hamilton.
Ouais, 55 pour Hamilton, oui.
Je crois que c'était
60. Je crois que c'était 60 pour. Je crois que c'est 60. Peut-être 70 demain matin, on sait pas, on verra.
Mais d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez du départ d'Hamilton? Est-ce que vous pensez qu'il ferait mieux de prendre le départ de la grille ou des stands?
De la grille.
Moi, je l'ai dit sur Twitter, la Chine a prouvé que c'était pas plus mal de partir des stands.
Je pense qu'il va avoir plus de chances de gagner beaucoup de positions en partant de la grille qu'en. Ok, c'est plus risqué, mais il a plus de chances de remonter vite.
Ouais.
Oui.
C'est dur à dire parce que la Chine c'est quand même spécial, hein. C'est un très long virage. Hamilton il avait presque fait le, il était presque passé, oui, en Chine. C'est juste quand Raikkonen revient, ils font un peu le bazar et ils touchent la Sauber. Mais je sais pas. La source au moins c'est un virage, c'est un virage net, on va
quand
dire.
Quand t'es dernier, t'as pas trop de pression.
Non,
il y a
non.
Toujours des petites touchettes, tu vois. Ouais. Des
la source c'est... La source est délicate si t'es dans le milieu du peloton.
Oui, là, il est derrière, il peut freiner 200 mètres à l'avance.
Mais encore après, la source, c'est pas, enfin, la source, c'est un problème, mais il y a quand même le passage derrière qui est, tu sais pas. Tu vas affronter des pilotes qui sont pas forcément habitués à voir une voiture les dépasser à ce stade-là de la course aussi rapidement. Peut-être oui. Qu'il y aura un petit peu de zèle et que ça va mal se passer dans le raidillon, en espérant que non, puisque ça serait quand même très dangereux. Mais, ça va être difficile, faut voir, parce que si il peut se passer un truc devant et puis là tout le monde va dire ah là là, Hamilton profite de cet incident pour gagner des places, qui sera vrai, et puis il peut se passer quelque chose un peu plus proche de lui et là on n'est pas certain qu'il puisse l'éviter ou que voilà tout est... Moi je serais lui, je partirais de la grille. Je joue à F1 2016. Je serais lui. Je partirais de la grille, mais pas trop vite. Voilà, je laisserai un peu de distance avec tout le monde, et puis je ramasserai les pots cassés après.
Est-ce que tu as déjà tenté la source sur F1 2016?
Oui.
As-tu survécu à la source?
En ligne, tu ne survis pas au premier virage si tu n'emploies pas cette tactique, mais sinon tu peux. Non, tu peux pas passer si
d'ailleurs,
tu...
très, très très beau premier virage en Estimbsamble.
Oui. J'ai adopté la tactique de la peur, hein, faut le dire. J'ai freiné comme un dingue et bon, bah voilà. Une dizaine de voitures se sont rentrées dedans. C'était plus pratique derrière. Je conseille ça donc à Lewis, s'il m'entend.
Continuons la remontée de la grille de demain. Avec la Q, j'ai oublié de préciser pour la Q1, mais je sais pas si vous voulez revenir dessus, que deux temps ont été annulés, un de Magnussen, un de Nasser. Voilà.
On peut parler peut-être, ouais, de Esteban Ocon, mais.
Oui, aussi.
Il fait pas une qualif trop dégueulasse, comme il le disait au micro de Canal, c'est une question d'expérience avec l'exploitation des pneus. Bon, après en Q1, le temps de Wehrlein paraît canon. Il y a qu'une demi-seconde d'écart, mais c'est assez serré et du coup sa 9e place paraît assez miraculeuse. Je pense que ça a peut-être dû en faire un peu mal quand en Q1 ton coéquipier est 9e et toi je sais plus 18e. Mais à part ça, oui, un début de week-end réussi. J'attends de voir demain en course, pourquoi pas ce qu'il peut faire. Et après, avec tout ce qui se passe, Wehrlein n'est pas si loin que ça, quoi.
Et juste devant lui, enfin, 2 places devant.
Donc pour revenir à ce que tu disais Quentin sur les tours qui ont été annulés, ce qui était intéressant de voir, c'était que la FIA a déclaré avant la course que il ferait bien respecter les limites de piste, mais qu'il les ferait respecter comme par le passé à Spa. Donc si vous avez tous en mémoire comme par le passé à Spa entre guillemets, c'était quand même assez cool, hein. Il y avait quand même assez peu de temps qui était annulé, et notamment au passage du Raidillon. Et moi j'ai trouvé, alors c'est le premier tour qui a été annulé, c'est la Sauber de Nasser, voilà. La Sauber de Nasser, quand même, c'est pas un gros dépassement des limites de piste, quoi. Et moi, j'étais vraiment persuadé que même si effectivement leur boucle, leur capteur avait bien détecté un dépassement, je m'étais dit que c'était quand même un petit dépassement et que ça allait pas être sanctionné. Et quand même si. Donc finalement, la FIA est à mon sens plus dure que ce qu'elle avait annoncé, parce que si elle avait annoncé comme par le passé, bon, c'était quand même assez cool. Là, j'ai trouvé que c'était quand même assez dur. Moi, je m'en plains pas, parce que c'est une bonne chose. Enfin, on va pas faire comme Toto Wolff le demande, c'est-à-dire abolir les limites de piste. Hein. On n'est pas non plus. Enfin, je sais pas dans quel sport en fait tu verrais ça. Les sports où il y a des limites. Oui, c'est vrai, la NASCAR. Non. Mais ils ont des murs. C'est ça qui aide à faire respecter
les limites. Non, mais pas dans les circuits routiers.
Le championnat d'endurance américain, je crois qu'il y a dedans, je crois qu'ils respectent pas trop les limites.
Non, mais ils choisissent moi ce qui me dérange, c'est qu'ils choisissent 2 virages et puis le reste, on s'en fout, quoi.
C'est vrai aussi, oui.
C'est oui. Vrai. C'est, ils vont créer à la courte paille, pour l'auto, le numéro de virage, ils vont installer le truc.
Et le réalisateur, j'ai l'impression qu'il joue mal quand même, je sais pas s'il veut influencer, les commissaires sur certains trucs, mais des fois on voit bien des replays. Et je trouve ça. J'espère que le commissaire ne se base pas trop dessus, parce que ça peut être un peu injuste, qu'un pilote se fasse gauler et un autre pas du tout.
Oui, mais c'est vrai que le réalisateur, il s'était amusé à montrer à Pouhon. Ça devait être c'était qui ? C'était Rosberg qui était passé à Pouhon. Les 4 roues nettement hors des limites de piste et. Enfin, moi, c'est pareil, c'est toujours la notion de l'avantage tiré. Effectivement, comme tu dis, Marco, t'as l'impression qu'il décide des virages, parce que, dans l'absolu, moi, la question que je me pose, c'est, s'ils tirent pas davantage à faire ça, pourquoi ils y vont, finalement? si tu tires pas davantage, a priori, t'y vas pas. Enfin.
Exactement ça.
C'est peut-être un peu idiot comme raisonnement, mais dans ces virages rapides-là, on sait tous pourquoi ils sortent plus large. C'est parce qu'avec la vitesse, ils peuvent pas avoir une meilleure trajectoire à ce moment-là. Et que donc forcément, si la meilleure trajectoire c'est en passant hors de la piste, c'est forcément qu'ils tirent un avantage, parce qu'on a bien conscience qu'ils vont pas ralentir à ce moment-là. Rosberg a pas ralenti à ce moment-là, et il a eu raison de le faire puisqu'il a pas été pénalisé. Ça me paraît un peu, je sais pas.
Le seul truc qu'ils ont gagné la FIA, c'est que on n'aura pas le même dépassement que l'an dernier de Verstappen dans Blanchimont, qui est le plus beau de l'année. Ils sont assurés de ça, voilà. C'est bien. Il n'y a pas de constance dans leur décision et règlement.
Passons donc à la Q2. Il y a vu... Pascal Wehrlein, donc passé en Q2, mais il s'est arrêté là puisque 16e temps. D'ailleurs, un temps à 8 dixièmes de son chrono de Q1. Il est devancé par Sainz, Palmer, Gutiérrez, qui a reçu 5 places de pénalité, donc qui recule, Magnussen et Grosjean.
Wehrlein était en en super tough usé pour sa Q2.
Oui, parce qu'il a fait un premier tour vers Line où il a annoncé à la radio qu'il trouvait sa roue un peu relâchée.
Oui, oui.
Alors moi j'aimerais savoir la raison, savoir ce qu'il en est, parce que s'ils l'ont relâché avec une roue mal fixée, ça serait intéressant à savoir. Puis visiblement ce sont des cas dans lesquels on n'est pas toujours très très sûr de ce qui va se passer après. Donc il a pas été inquiété visiblement, donc peut-être qu'il n'en était rien. Mais donc ça lui a coûté son premier tour effectivement, et après il est ressorti, il en a fait qu'un, et il est assez loin de son premier temps.
Renault, la meilleure qualif de l'année, il me semble, pour que ce soit pour Magnussen ou pour Palmer. Pas attendu celle-là. voilà.
Palmer qui est ravi alors qu'il est quand même 4 dixièmes derrière son coéquipier. On se contente de peu, hein.
Il était content d'être 19e une fois, donc Palmer a comme une échelle. Le jour où il sera dans le top 10, ça va être quelque chose. Hein. Ils vont faire une fête sur l'hospitalité Renault, ça va être impressionnant. Mais oui.
C'est quand même surprenant de voir que 12e, bon, si on ajoute Hamilton et Alonso qui auraient dû à la régulière finir devant, même 14e, c'est une très très bonne qualif.
Après, c'est la voiture de l'année dernière, on sait ce qu'elle a fait l'année dernière, cette voiture.
Oui, c'est pas le même moteur, mais.
On doit avoir Palmer sur le podium.
Oui, il y a une toute petite différence de moteur.
Mais si, mais Palmer peut être, tu vois, je te trouve un petit peu dur, Victor, Palmer peut être sur le podium. Si les voitures devant ont toutes une défaillance dans les deux derniers tours, je pense que c'est jouable, mais... non, mais blague à part. Oui, non, mais c'est une belle qualification. Effectivement, faut quand même toujours rappeler que, oui, Alonso et Hamilton seraient devant, donc ça tempère un petit peu le coup des places. Bon, voilà, reste que ça aurait quand même été ça aurait quand même été en Q3 a priori, en Q2 a priori, donc.
Ouais, ils sont devant les Toro Rosso.
Ouais. Les deux.
Sans doute la première fois que c'est le cas.
Après, avec les Toro Rosso, c'est les voitures qui ont les moins bonnes vitesses de pointe.
Ouais.
Elles sont autour des Toro Rosso qui sont à 333. Sinon en Q2 on a eu aussi Grosjean, et je vais en venir surtout à l'interview qu'il a donnée à Canal après la qualif, comme quoi il avait reçu l'aide de Gutiérrez pour gagner un peu de temps en ligne droite. Je sais pas si vous avez relevé.
Oui, tout à fait, oui.
Ah, mais c'est pour ça, dans le rédillon, Gutiérrez, en fait, il attendait Grosjean et il s'était vers la ligne.
Il voulait le propulser.
Il a failli le propulser, mais dans le mauvais sens.
Ouais. Non, mais c'est bien.
Ah, mais est-ce qu'il se prépare les tactiques comme ça pour Monza? Parce que je sais qu'on a déjà vu Ferrari faire ça. Ça peut être intéressant.
Vous êtes des génies.
Ouais.
Mais là, ce serait parce que Grosjean a un déficit non expliqué.
Ouais.
De vitesse de pointe. Je sais pas s'il y a eu des nouvelles là-dessus, mais il savait pas trop pourquoi ça n'allait pas aussi vite en ligne droite. C'est assez inquiétant. Pour la course.
Oui.
Mais c'était un week-end un peu compliqué pour Grosjean, j'ai l'impression. Ses essais libres étaient assez galériens. Enfin, on entendait beaucoup à la radio se plaindre de ceci et de cela. Donc, 11e, avec ce qu'il a connu en début week-end et éventuellement problème de vitesse de pointe, il est devant son coéquipier, c'est plus que bien. Hein.
Et en Q2, il y a aussi eu des choix de pneus, mais là, on en parlera après, puisque ça va avoir un impact sur les pilotes qui sont en Q3 et qui sont Felipe Massa en 10e place, Jenson Button à la 9e place, Valtteri Bottas 8e, Hülkenberg 7e, devancé par Perez 6e, Ricciardo 5e, Vettel 4e. Ah, tiens, il me manque Raikkonen 3e, Verstappen en première ligne à la 2e place, Rosberg pole position, la 28e de sa carrière, la 65e de l'équipe Mercedes, la 148e du moteur Mercedes, à une vitesse moyenne de 236,214 km/h.
pour le disputer. Non, mais peut-être les Williams. Alors les Williams, apparemment, ils ont un problème électronique qui les a gênés en Q3. Alors je veux pas dire de bêtises. Ouais, ils ont un problème de logiciel, apparemment, nous explique Rob Smedley. Et donc, ils n'ont pas pu avoir toute la puissance disponible en qualification. Il dit que ça leur a coûté 2/10, voilà, à chacune. Donc, ça explique peut-être un petit peu la contre-performance, même si on ne sait plus trop ce qu'est une performance et une contre-performance chez Williams depuis quelques temps. Donc, voilà. Et puis,
après, Massa, il y a aussi le fait qu'il fasse qu'une tentative et qu'il rate d'ailleurs.
Ouais, qu'elle n'est pas très bonne, oui, tout à fait.
Parce que ouais, il est sorti tard du stand et c'est Button qui a aussi fait qu'une seule tentative. Et donc du coup, ils ont fini leur chrono dans les derniers instants, hein.
Ouais.
de la Q3.
Bah Button, oui, qui avait l'air très très content de son tour.
Oui. Il n'hésite pas à le comparer à son tour de qualif de 2012.
Oui. Il avait un meilleur temps en Q2. Après, on sait que les conditions de piste, le vent, surtout à Spa, ça peut changer. Mais... C'est difficile de comparer, mais il est un peu moins bon de 50 millièmes. Sinon, sur les pneus.
Ah.
À condition que ce soit sec demain, Verstappen partira en super tendre. Et parmi les équipes de pointe, c'est un peu le seul, puisque Rosberg partira en tendre. Il me semble que les deux Ferrari et Ricciardo aussi, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça, je pense.
Oui.
Ouais, je sais plus. Donc, Verstappen. Ferrari, les deux, mais...
Oui.
Des cinq premiers, il y a que Verstappen qui part en
exactement
super tendre. Oui.
Oui, oui, oui. Bah.
Apparemment... Ah, ça risque de lui porter préjudice, hein. C'est vu ce qu'on a vu aux essais, il va pas faire beaucoup de tours, Verstappen.
Alors c'est lui apparemment qui a fait ce choix-là justement.
Ouais, bah, c'est ce que Ricciardo affirme, hein, et ouais. N'hésite pas à affirmer qu'il y a eu deux choix différents et ça l'embête pas trop de voir Verstappen faire un peu les devants.
C'est ce que disait Horner aussi. Donc, bah. Pourquoi pas, faut voir. Après, c'est toujours pareil. Et les Red Bull, qui sont des voitures effectivement qui ont beaucoup d'appui, en ont quand même sacrifié pas mal ce week-end. On sait que ça leur réussit pas forcément. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à Bakou, ils avaient sacrifié pas mal d'appui aussi et que ça avait pas été très fructueux, notamment en course. Même pas du tout. Donc
après, oui. Sur la voiture de cette saison, parce que...
Oui. Oui, 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 tout à fait. L'année dernière, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Mais faut voir. Après, faut voir un petit peu comment ça se. S'il les a pris lui, s'il a choisi cette stratégie-là, alors qu'on lui a donné le choix, c'est peut-être qu'il a une idée derrière la tête. Ça peut ne pas être idiot. Le tout pour Verstappen, ça serait forcément de passer très vite, parce que j'ai peine à croire que si Rosberg, même si lui est dans les échappements de Rosberg, enfin surtout si lui est dans les échappements de Rosberg, voilà, ça risque d'être difficile. Il va perdre encore plus d'appui, donc il va faire glisser ses pneus, il va être dans la chaleur dans les dégagements de chaleur derrière la Mercedes. Voilà, je pense que c'est une stratégie un petit peu du qui tout double, hein. Je le vois mal dans le peloton arriver à faire tenir ses pneus, même si les autres derrière seront sur des stratégies un poil plus conservatrices avec les pneus tendres, mais qu'est-ce qui va être vraiment conservateur demain, on sait pas. Faut se souvenir aussi que normalement les températures seront aussi plus basses, donc ça peut être quelque chose qui rééquilibre aussi les forces en faveur de Verstappen. Après, est-ce qu'elles seront suffisamment basses pour vraiment créer une différence et lui permettre de faire durer sensiblement son relais en début de course avec beaucoup d'essence? Bon, j'avoue que j'ai du mal à en douter, mais tout dépend de la façon dont le premier tour se passe. Il va avoir l'avantage
Pirelli,
des pneus, voilà.
Pirelli a prédit au maximum 8 tours sur les pneus super tendres en début de course.
Et combien après, sur les tours
Je ne sais pas, parce que comme je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit avant l'émission ou au début de l'émission, j'ai vu ça dans un tweet d'un journaliste, et j'ai pas encore
Alors, pour les, donc, 9 pour les super softs maximum, 16 pour les softs, et 24 pour les médiums maximum.
24, ah oui. Ça fait la moitié de la course, enfin, un peu plus.
Sachant que pour Verstappen, il reste un set de médiums non usés.
Les médiums, je sais pas.
C'est quel pneu qui est obligatoire?
Les deux plus durs, au moins un des deux.
Ouais. Okay. Alors, sachant que le médium, quand même, avait pas l'air de fonctionner très bien. Je doute qu'on le voit beaucoup, en fait, sauf s'il y a des imprévus, mais à mon avis, ça va plutôt être...
Chez Williams, t'inquiète pas.
Oui, c'est vrai.
Avec un jaune.
Avec, oui.
Oui, ouais, c'est vrai. Toujours un petit jaune.
Non, c'est pas drôle. Hein,
non, non.
Moi, on va se diriger vers les pronostics. Si je devais... Peut-être que Verstappen va tenter un super tendre médium et super tendre en fin de course.
Oui. Ricciardo, il lui reste un train de super soft non usé, quoi. C'est ça que c'est.
En tout cas, sur les performances des uns des autres, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à souligner dans cette qualif?
Bah, merci. Si, bon. Non, mais.
Petite Raikkonen.
Ouais, Raikkonen, ouais.
Il avait l'air plutôt en forme ce week-end, je trouve. Il avait l'air un peu déçu aussi de manquer la pole, ça aurait pu avoir eu un peu de piquant, Raikkonen en pole, n'est-ce pas? Ça aurait pu faire plaisir aussi à Shinji. moi, je. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu déçu de voir que 3ème, je sais pas pourquoi, je me suis dit Raikkonen ce week-end, je le sens bien. Mais bon, à voir ce qu'il peut faire demain. Troisième, il en embuscade. Il suffit que Rosberg et Verstappen se bataillent un peu et il y a peut-être des bonnes occasions.
Il y a le bon départ des Ferrari aussi.
Ouais, eux aussi. En fait, ça pourrait être intéressant demain.
Oui, c'est vrai que le départ peut être intéressant. Surtout que Rosberg n'a pas eu l'habitude de conserver ses pôles depuis deux Grands Prix. Donc, ça peut être aussi intéressant. Mais oui. Bah Verstappen qui fait quand même une très bonne qualification hein, parce que c'est quand même le meilleur adversaire de Rosberg. Il finit même pas, enfin à moins de 2 dixièmes, donc c'est vraiment pas mal quoi. Alors c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait vu le matin, on pensait presque que les Mercedes seraient atteignables, dépassables sur ces qualifications. Bah il s'est trouvé que non. Bravo à eux, bravo à Rosberg qui fait un très bon tour. Reste que sur un circuit de 7 km, c'est pas mal d'être qu'à un peu plus d'un dixième de Rosberg. C'est prometteur, quoi. Faudra voir ce que ça donne pendant la course en termes de rythme, mais c'est intéressant, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de Rosberg, je voulais souligner le temps qu'il a fait en soft en Q2. C'est impressionnant. Pareil, le gain qu'il a eu entre un temps en soft à fond, en super soft, il était que de. Allez, 2 dixièmes et demi. Et il a cloué le temps au Q2, le tour, et je crois que les commentateurs l'ont insisté sur la réaction de Tsunoda. Je trouvais ça impressionnant.
Ouais, c'est un temps qu'il aurait placé 3ème sur la grille quand tous les autres étaient en super soft.
Oui.
Et on prend ce temps de Q2 et qu'on l'applique en Q3. Donc, hein.
Ouais. Oui, c'est
pas dégueu.
Non, c'est pas dégueu.
Mais on sent quand même que la Red Bull, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais que Red Bull est plus rapide que Ferrari maintenant, c'est...
Ah bah c'est oui, surtout même à Spa là, ça apporte la confirmation que ils sont bien devant, parce que pour les devancer à Spa alors que Ferrari a une très bonne vitesse de pointe, ça veut dire que Ferrari a encore du travail sur l'aéro et que Red Bull est clairement passé devant maintenant. Mais ils sont passés devant depuis très longtemps, mais
ouais,
qu'ils soient passés devant même à Spa, ça confirme le fait qu'ils sont bien plus forts que Ferrari, je pense.
Et juste, c'est vrai que Ferrari, ils ont modifié, parce qu'ils étaient partis sur une configuration hier d'aileron arrière, notamment, qui était assez agressive, avec moins d'appui que celle qu'ils avaient aujourd'hui. Donc peut-être qu'eux ont misé un peu plus, ont accepté un peu plus de sacrifier de vitesse pour retrouver un peu plus d'appui derrière. Dans l'absolu, enfin voilà, le tour de Raikkonen n'est pas très très loin de celui de, est pas très très loin de celui de Verstappen.
Si jamais il y a de la pluie, c'est pas plus mal non plus d'avoir
oui.
Un aileron arrière un peu plus gros.
Ouais.
Même si les prévisions sont assez mitigées, on va dire. Je pense qu'on aura surprise demain.
Oui, c'est vrai, on peut être surpris, effectivement.
Euh,
puisque on va donc passer au pronostic, un pronostic un peu spécial en vue de la pénalité de Lewis Hamilton. À quelle place, à votre avis, il va arriver, si en tout cas il ne fait pas partie de votre podium de cette course, à quelle place il peut arriver? Et une question un peu différente, à quelle place il peut se dire satisfait de sa course à la fin du Grand Prix?
Bah, il sera satisfait s'il repart de Spa toujours en tête du championnat, je pense. Après, jusqu'où il peut remonter, je pense que c'est quand même compliqué de rattraper les trois grosses écuries. Donc sans doute ça mènerait sixième.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il fera pas une remontée fantastique jusqu'au top 5. Ça me semble inatteignable. Enfin, si la course se déroule normalement, évidemment, parce que oui. Il n'est pas exclu qu'une voiture de sécurité le remette en jeu, qu'un accident le remette en jeu. Là, c'est voilà. Il y a quand même des. Mais si la course se déroule sans problème, je pense que ce sera très difficile de faire tenir ses pneus vraiment correctement. On a vu qu'il avait un peu de mal et il était tout seul dans ses tours en plus. Donc voilà, c'était pas facile forcément durant les essais libres. Bon, j'ai aucun doute sur le fait qu'en course ça sera mieux parce que c'est toujours mieux en course pour Hamilton, mais j'ai du mal à croire qu'il sera dans le top 6. Pour moi 7e, comme dit Marco à peu près, c'est-à-dire que 7e tu prends 6 points, ça fait qu'il sera assuré d'être à égalité avec Rosberg. Je pense que là, à partir de là, tu pourras dire que ça aura été un bon week-end. Tu prends trois moteurs gratuits, tu finis 6e, 7e, tu restes à égalité, puis tu dois être devant. Enfin, je sais pas exactement.
Un peu devant. Il me semble qu'à partir de la 8e place, il perd un point au championnat.
Si Rosberg gagne aussi.
Oui, donc si Rosberg gagne. Je pense qu'il va buter sur les voitures qui ont une forte vitesse de pointe, donc il y a un risque qu'il bute sur les Williams. Il bute souvent sur les Williams, India. D'ailleurs. Les Force India, India, oui, ouais, derrière.
Les deux, ils sont en tenaille.
Après, tout jouera aussi à la capacité de réussir des bons tours au moment où ces voitures-là seront plus devant, au moment où il aura la piste libre. Faut reconnaître que ça n'a pas été...
aussi pour les courses.
C'est ça, et puis il faut reconnaître que ça n'a pas toujours été une de ses qualités d'arriver à faire de bons tours de sortie et d'entrée, donc cette saison en tout cas. Donc ce sera à voir, il y aura tout ça, et la stratégie, oui. Mais moi j'ai peur que la stratégie soit un peu annihilée par la dégradation de la course, même si encore une fois avec les températures qui seront inférieures, voilà, il faudra voir aussi comment ça se déroule, les forces en présence, et ça peut changer beaucoup de choses en tout cas. Donc, mais 7e, je pense qu'il pourrait être content à partir de 7e. Ouais.
Et donc vos podiums? Podium de cette course.
Pour la victoire, je vois quand même Nico Rosberg un peu au-dessus, un peu challengé par Verstappen, mais la question des pneus de Verstappen au début de la course est quand même un peu primordiale. Et après, je sais pas si j'arrive pas à voir Ricciardo repasser les Ferrari. Mais parmi le Ferrari, je me dis, je ne sais pas lequel mettre. Vettel paraissait un peu plus en retrait, Raikkonen un peu plus envers, en vogue. Je suis assez conservateur, généralement, dans les podiums. Moi, je sais pas dans quel ordre les mettre, mais je mettrais Rosberg, Verstappen et Raikkonen. Pas forcément dans cet ordre-là, je sais pas trop quel ordre leur donner, mais je vois les trois sur ce podium-là demain.
Marco, Fab?
Ouais, c'est difficile. Il y a tellement d'interrogations ce week-end. Je pense qu'il va y avoir un pilote de chaque Mercedes, Ferrari, Red Bull. Je vais tenter Ricciardo premier. Ça va faire plaisir à GSM. Ricciardo premier devant Rosberg et Raikkonen.
Moi, je pense que la baisse des températures va favoriser la Mercedes, donc je vois bien Rosberg l'emporter. Verstappen, j'ai un peu peur que sa stratégie lui retombe dessus, donc je vais plutôt mettre Ricciardo et Vettel, parce que je pense que Raikkonen a un potentiel pour faire une bêtise ou d'être moins consistant que ce qu'il a montré depuis le début du week-end. Donc voilà, Rosberg, Ricciardo, Vettel.
Et moi, je vais mettre un Rosberg. Pour les mêmes raisons que toi, Fab, avec la baisse des températures, et je vois bien Mercedes rester un peu devant, avec un Vettel et un Sergio Perez. Nous a habitués, habitués, c'est une grande, un grand mot, mais...
Gros Scott.
Mais, mais une Force India, Spa, en plus Perez, qui est là toujours pour saisir les bonnes occasions.
Pourquoi pas Hülkenberg, du coup.
Non.
Si Perez fait un podium, je pense que ouais, je sais pas...
J'en peux plus.
Mais non, mais ça, c'est même pour le pilote, quoi. Ça doit faire mal quand ton propre coéquipier enchaîne trois podiums quand c'est dans la même écurie que toi.
Mais il a fait une pole en 2010.
Mais oui, voilà. Le bon qui était la Williams, il a terminé 8e. Là, oui. Ouais, bon.
Il a failli gagner un Grand Prix en 2012.
Oui, non mais.
Ouais, oh bah non, on va pas parler de ce Grand Prix-là et de ce qui s'est passé ce jour-là. Hein.
D'ailleurs, Fab, on est d'accord que c'est la faute d'Hamilton.
Oh oui, c'est clair. Moi, ça me paraît évident, mais bon. Qu'est-ce qu'il faisait à ouvrir la porte? Quel con. Oui. Il a changé d'ailleurs depuis. Il ouvre plus rien.
Bon, voilà, on a fait la minute Hülkenberg maintenant. Pourquoi voilà. C'est là-dessus.
Et donc la suite, ce sera la fin de cette émission l'occasion de rappeler que le SAV de la F1 est sur iTunes, Pod Radio, Pod Cloud, Facebook, Twitter @leSAVF1, YouTube, Stand F1 et Actu F1. Parce que messieurs, la F1 sur Internet, c'est sur
SAVF1.fr.
Parce que le SAV de la F1, c'est
Hülkenberg.
Arrive.
La vas-y.
Hülkenberg,
et c'est un peu d'actu aussi.
Oui.
Et ça recrute toujours d'ailleurs, si vous êtes intéressé.
Oui.
Allez, bye. Bon Grand Prix et bon dimanche.
Bon dimanche.
Salut.
Salut.